RCF.
L'acteur principal de l'évangile de ce dimanche a le verbe « haut » et la démarche assurée de celui qui avance sans peur. C'est un homme fort, mais qui se considère comme le plus petit d'entre nous. À la suite des grands prophètes du Premier Testament, il n'a que Dieu pour unique passion. Jean-Baptiste, souvent comparé à Élie, est le premier à rentrer en scène dans l'évangile de Marc. Mais l'homme vêtu d'une simple peau de mouton n'apparaît que pour conduire à Jésus et il ne lui volera pas la vedette. Pour parler du Baptiste et commenter l'évangile de ce jour, je reçois Michel Quesnel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre oratorien, bibliste et théologien. Alors nous écoutons la parole chez Marc, chapitre 1, versets 1 à 8.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir, derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
Michel Quesnel, nous sommes au début de l'évangile de Marc. Alors, quand on lit les quatre évangiles synoptiques, chaque début est différent. Qu'est-ce qui caractérise Marc ?
Ce qui caractérise Marc, c'est que justement, d'abord, il a un titre, commencement de l'évangile de Jésus, Christ et Fils de Dieu. Et ensuite, il commence par Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous savez, c'est le lion qui représente Marc dans les symboles évangéliques, puisque ça commence par « voix de celui qui crie dans le désert », donc une voix qui crie, ça fait penser effectivement un peu au
mugissement
du lion.
Du lion. Voilà. Qui est Marc, rappelez-nous ?
Alors Marc, c'est un gamin de Jérusalem, fils d'une certaine Marie, qui a été un jeune disciple de Jésus, qui a eu quelques mailles à partir, quelquefois avec Paul ou avec d'autres. Il a écrit son évangile à Rome, sans doute, autour de l'année 70. Alors, selon les auteurs, on pense que c'est un peu avant ou un peu après. Mais c'est le premier rédigé des quatre évangiles, oui.
Le premier dans l'ordre des quatre évangiles.
Le premier au plan chronologique.
Au plan chronologique. Et alors, Marc s'inspire de quoi pour écrire ?
Alors, il existait des recueils de paroles de Jésus qu'il utilise. Et puis, on dit de Marc qu'il est le narrateur de la prédication de Pierre. Parce que finalement, il a pas mal accompagné Pierre. Et c'est au moment où Pierre meurt qu'il ait besoin de mettre par écrit ce que Pierre pouvait dire de vive voix.
En fait, pendant plusieurs dizaines d'années, on porte la parole avec la voix, à l'oral, et puis les récits commencent à émerger, écrits autour de 60-70.
Alors voilà, l'écriture en fait a pratiquement 40 ans de moins que la mort de Jésus.
Et la résurrection.
Et la résurrection, bien sûr.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans cette simple phrase, on va déjà revenir sur le mot « commencement ». Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce petit mot important ?
Dans la tradition de l'Église du 1er siècle, justement, c'est avec la prédication de Jean-Baptiste que se fait le commencement des événements qui marquent l'ère nouvelle, d'une certaine façon. Lorsque, dans les Actes des Apôtres, Pierre veut compléter le collège des douze qui a été amputé d'un membre à cause de la mort de Judas, il veut recruter quelqu'un qui, depuis le commencement, a été avec nous. Et le commencement, c'est ça. Donc Jean-Baptiste est, pour la tradition du 1er siècle, vraiment le commencement d'une série d'événements liés à la personne de Jésus et à ses suites.
On sait que dans le Premier Testament, il y a un autre commencement.
Alors,
c'est le récit de la Genèse.
Absolument,
on peut dire qu'avec Jésus, nous rentrons dans une nouvelle création.
Paul dirait ça très bien, oui, parce que Marc est aussi assez proche de Paul dans sa théologie. Paul parle beaucoup d'une nouvelle création, d'un homme nouveau, etc. Oui, tout à fait.
Commencement de l'Évangile.
Alors,
qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Évangile, au départ, ce n'est pas du tout un écrit. Évangile, c'est une parole, c'est l'annonce, c'est une bonne annonce. Euangelion, en grec, ça veut dire bon, et angelion, c'est une annonce. Alors, le mot existe d'ailleurs dans l'Ancien Testament grec. C'est lorsque, par exemple, le prophète Isaïe annonce des événements heureux. Il parle d'une heureuse annonce, d'une bonne nouvelle, et qui fait d'ailleurs le lien entre l'Évangile et le règne de Dieu. C'est une bonne nouvelle qui dit « ton Dieu règne ». Donc il y a vraiment une certaine parenté entre l'annonce du règne de Dieu et cette bonne nouvelle, alors qui a changé de sens au cours des siècles. Pour Paul, par exemple, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Et puis progressivement, ça deviendra, à cause de saint Marc d'ailleurs sans doute, ça deviendra un écrit. C'est à partir du IIe siècle, sous la plume de saint Irénée, que le mot évangile désigne un écrit.
Oui, parce que là, on le trouve vraiment dès le début, et il marque l'intitulé du texte.
Absolument. Par la suite, finalement, le mot évangile désignera les quatre écrits, plus les évangiles apocryphes d'ailleurs, qui parlent de Jésus avec des paroles et du récit.
Michel Quesnel, dès le départ, Marc met donc une réalité heureuse pour l'homme en valeur, puisqu'il parle tout de suite de cette bonne nouvelle.
Absolument.
Qui marque une nouvelle ère, l'avènement d'une nouvelle ère. Il est question ensuite de l'homme, Jésus. Bonne nouvelle de Jésus. Que signifie le
nom Jésus? Alors Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est un nom d'ailleurs qui a été imposé par l'ange lors de l'annonciation à Joseph. Tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés.
Donc Jésus, l'homme. Et puis juste après, ce petit mot Christ, Jésus, Christ.
Alors ça, c'est très important. C'est très important et ça donne le plan d'évangile de Marc. Parce que dans une première étape, Pierre, un juif, au chapitre 8 de saint Marc, reconnaîtra que Jésus est le Christ, tu es le Christ, c'est ce qu'il lui dira lors de la fameuse confession de Césarée.
Qui veut dire quoi, Christ?
C'est le Messie, c'est-à-dire c'est celui qui a reçu l'onction.
Le oint.
Et c'est l'oint, c'est le O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction, donc le roi a été oint dans l'Ancien Testament, et le Messie attendu, exerce une certaine forme de royauté, d'ailleurs il prêche le royaume aussi. Et Jésus, effectivement, est considéré par la tradition chrétienne comme le Messie d'Israël, c'est-à-dire un peu le successeur du roi David des temps antiques, 1000 ans après environ.
Donc bonne nouvelle de Jésus, nous l'avons dit, l'homme, Christ, il est oint, il est le Messie, et fils de Dieu.
Alors fils de Dieu, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que si ça renvoie à la deuxième confession que l'on a dans le récit de Marc, lorsque Jésus est en croix, et qu'un centurion païen proclame, voyant la façon dont il était mort, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose de glorieux dans la notion de fils de Dieu. Dans la tradition juive, le roi est fils de Dieu, le peuple est fils de Dieu, le juste que Dieu protège est fils de Dieu. Et c'est à la façon dont Jésus meurt que ce païen, qui n'avait aucune culture juive, proclame que Jésus est fils de Dieu. C'est donc autant dans sa mort que dans sa gloire que Jésus est vraiment le plus proche de Dieu possible.
Le fait que Marc termine cet évangile justement avec un étranger, celui qui n'est pas du peuple et qui dit « celui-ci est le fils de Dieu » montre qu'il y a une ouverture à l'universel.
Alors, il y a une ouverture à l'universel. On dit d'ailleurs que l'évangile de Marc, vous savez que Pierre est mort à Rome, que l'évangile de Marc a été aussi composé à Rome. Et la communauté chrétienne de Rome était donc composée bon, certainement de juifs au départ, mais c'était beaucoup amplifié par l'adjonction de gens d'origine païenne, des Romains, des Grecs, etc.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Michel Quesnel, nous lisons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Alors après cette phrase d'ouverture, nous avons pris le temps de la développer parce qu'elle est très importante. nous lisons la suite, Marc se réfère au Premier Testament. Il est écrit dans Isaïe le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Marc cite tout de suite un extrait du livre de la première Alliance.
Alors, il y en cite d'ailleurs plusieurs, parce que le « en avant de toi » ne vient pas d'Isaïe. Ça vient du livre de l'Exode. « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour te garder sur le chemin. » Et puis, ça vient aussi du livre de Malachie.
Donc, Marc, comme les autres évangélistes, utilise ses connaissances, puisqu'il est pétri d'écriture, et donc, il va tisser sa propre écriture avec des références au Premier Testament.
C'est là que je crois qu'on est à peu près incapable de comprendre les évangiles si on ignore l'Ancien Testament. Vous savez que dans la tradition chrétienne, l'écriture n'a jamais été constituée du seul Nouveau Testament. L'écriture, c'est un ensemble qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a tellement de références vétérotestamentaires dans les évangiles et dans le Nouveau Testament qu'il est à peu près impossible d'y accéder si on n'a pas au moins une certaine connaissance de l'Ancien Testament, oui.
Le Baptiste est qualifié d'une voix. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? La voix de celui qui crie. La voix, c'est, au fond, c'est le propre du prophète hein, dans les Écritures.
Oui, mais d'ailleurs, vous avez, le mot voix est assez utilisé dans l'hébreu. Ça se dit kol en hébreu. Et en particulier dans les psaumes qui utilisent ce mot-là pour parler de ce que Dieu dit. Et alors, lorsque, effectivement, les prophètes parlent au nom de Dieu, ils emploient beaucoup le mot oracle, mais ils emploient aussi beaucoup le mot voix, oui.
Il est question du désert.
Pourquoi
le désert,
ouais. Le désert, si vous voulez, dans la tradition juive, ça a une très grosse importance. C'est vraiment le lieu de la purification. Le premier désert dont il est question, qui a une grosse portée symbolique, c'est le désert du Sinaï qui permet au peuple juif d'aller d'Égypte dans la terre juive, c'est ce qui deviendra la terre juive.
De quitter l'esclavage.
Absolument.
Donc il y a presque une initiation dans cette mise à l'épreuve, un passage de l'esclavage à la liberté, et ça on retrouve ça tout au long des textes.
Alors ça on verra d'ailleurs aussi que Jean-Baptiste prend ses distances par rapport à Jérusalem, Jérusalem étant la ville par excellence dans la terre juive, et le désert, à proximité du Jourdain, étant effectivement le lieu loin de la ville. Donc il y a un vrai contraste entre Jérusalem, que Marc n'aime pas beaucoup, bien qu'il étant fils de Jérusalem, et que Jésus n'aime pas beaucoup non plus d'ailleurs, c'est quand même là qu'il y mourra. Et le désert, c'est évidemment, c'est aussi la possibilité d'une espèce de face-à-face avec Dieu, qui n'est plus tellement possible finalement, vu ce que le temple et ses institutions sont devenues au premier siècle de notre ère.
Michel Quesnel, vous parliez justement de ce désert, et on nous dit que Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Alors la traduction au plus près du grec est encore plus ramassée, puisque c'est pratiquement « survient Jean ».
Oui, absolument.
On a là comme un surgissement, il n'y a pas de détails superflus, contrairement à Luc des origines, avec Zacharie, Élisabeth. Là, c'est net, c'est sobre.
Ah ben, l'évangile de Marc est le seul qui ne donne rien avant la prédication de Jean-Baptiste. Puisque vous avez un évangile de l'enfance chez Matthieu, un chez Luc, et chez Jean, vous avez ce grand prologue qui conduit à Jean-Baptiste, mais on n'arrive qu'au bout d'un certain nombre de versets à Jean-Baptiste. Tandis que là, finalement, le nom de Jean-Baptiste, Jean paru, arrive dès le verset 4, et il a été annoncé par, justement, ces oracles prophétiques qui précèdent la parution de Jean.
Alors c'est intéressant parce que son père était quand même visiblement prêtre dans un temple, le temple de Jérusalem, et lui se retrouve dans le désert. Donc c'est un choix pratiquement intime de conviction. Qu'est-ce que vous diriez sur cette présence dans le désert avec peut-être beaucoup de disciples d'ailleurs?
Il prêche un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il y avait des sacrifices pour le pardon des péchés qui étaient offerts au temple. Et ce geste-là est donc un geste concurrent d'une certaine façon.
Ah oui, il est presque dissident, ce geste-là.
Mais il est dissident. Et les mouvements baptistes, d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a eu plusieurs mouvements baptistes à l'époque du début de la prédication de Jésus et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus célèbre d'entre eux. Et pour tous, finalement, c'était une volonté de retrouver une espèce de pureté, une espèce d'essentiel de la foi juive. Parce que finalement, le système, excusez-moi le mot, mais le système qui était en poste à Jérusalem était vraiment tellement corrompu dans sa collaboration avec les Romains, dans son profit financier, dans un fonctionnement tellement institutionnalisé qu'il ne portait plus rien, ou pratiquement plus rien, qu'il a fallu prendre ses distances par rapport à ça. Et Jean-Baptiste est vraiment l'un de ceux qui a pris ses distances.
Alors le baptême justement de conversion des péchés qui étaient pratiqués par Jean, les personnes venaient vers lui et puis il se plongeait dans l'eau, c'était un rite.
D'abord baptiser, ça veut dire être plongé dans. Hein. Ça veut dire baptiser, ça veut dire plonger. Donc être baptisé, ça veut dire être plongé dans.
Dans le Jourdain pour lui.
Ah oui, dans le Jourdain. Et ça suppose aussi d'ailleurs de disparaître sous la surface de l'eau un moment. On est baptisé par immersion complète du corps. Parce que ça fait mourir à quelque chose pour justement ressurgir à quelque chose d'autre. Donc on meurt à son péché d'une certaine façon pour ressurgir à une vie nouvelle.
Quelle définition vous donnez du péché, vous, Michel Quesnel ?
Poulala !
Pour les gens dont ce mot ne veut plus rien dire ou peut-être qui est connoté.
Alors écoutez, idées. Je crois que le péché n'est pas d'abord. Là, c'est le Paulinien qui parle en moi. Le péché n'est pas d'abord une désobéissance. Le péché, c'est finalement de refuser d'inventer ce qui fait du bien aux autres et à soi-même. C'est-à-dire que c'est une espèce de repli complètement dans l'espèce de bulle personnelle, une espèce d'isolement qui fait que la relation à Dieu et la relation aux autres pratiquement n'est plus possible. C'est ça que j'en dirais. On a beaucoup, je crois... donner au péché une valeur exclusivement de désobéissance à quelque chose. Vous savez que pour Paul, pratiquement, il n'y a pas d'obéissance à des commandements. Paul supprime le mot commandement de la langue chrétienne, pratiquement. C'est quand même assez extraordinaire.
Et alors pour lui, justement, pour Paul, l'enjeu, c'est...
Je crois que le pécheur par excellence, c'est Adam. C'est-à-dire celui qui, finalement, a voulu se substituer à Dieu. Vous serez comme des dieux. Ça veut dire que finalement, quand on veut être comme des dieux, le reste n'existe plus. Cette vision-là du dieu est un dieu isolé, est un dieu puissant qui n'a aucun intérêt pour ce qui est en dehors de lui. Et finalement, c'est cela qui est le péché.
Michel Quesnel, nous avons pris le temps d'éclaircir ce mot de péché. Continuons à lire l'évangile de ce dimanche. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leur péché. Qu'est-ce que vous diriez sur ce passage ?
Alors, je dirais d'abord que peut-être que Marc exagère un peu en disant que tout le pays de Judée et tous les gens du Jourdain viennent se rendre auprès de lui. Parce que bon, les gens venaient d'un peu partout de la terre juive. Mais c'était pas quand même des foules considérables. C'était sans doute quelques dizaines de personnes. Alors ensuite, je crois que c'est important d'avouer publiquement ce dont on se sent coupable.
C'était le cas dans le rite traditionnel autour des péchés au temple dont vous parliez, là, avec les sacrifices ?
Si vous voulez, quand on vient sacrifier pour un péché, on vient pour une faute relativement précise. Donc on énonce finalement au clergé ce dont on veut demander pardon. Et d'ailleurs, selon la faute qui a été commise, on offre plus ou moins.
Et on offrait quoi alors ? On offrait
C'était les animaux en général, c'était des offrandes végétales. Mais selon que c'est un péché du roi, un péché des prêtres, un péché d'un simple juif, les offrandes ne sont pas les mêmes. Et selon la gravité du péché, non plus les offrandes sont en général des animaux ou des offrandes végétales que l'on brûle.
Alors là, dans le baptême de Jean, il n'y a pas ce sacrifice.
Il n'y a pas de sacrifice autre que l'aveu de sa propre faute et le rite d'eau. Alors, il me semble, si vous voulez, que l'aveu est important, et là, c'est le catholique qui parle, à la différence peut-être de certains protestants, dans le sacrement de la réconciliation que pratiquent les catholiques et que les protestants ne pratiquent pas, il y a un aveu de la faute au ministre. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas d'avouer tout ce qu'on a fait et d'avoir un catalogue complètement exhaustif des fautes que l'on pense avoir commis ou des péchés que l'on pense avoir commis. Mais c'est la preuve de la sincérité. Si je vous dis je suis pécheur et que je suis incapable de nommer quoi que ce soit de ce que j'ai fait de mal, on peut douter de ma sincérité. Donc finalement, l'authenticité de l'attitude du pécheur, de celui qui confesse son péché, est d'au moins dire ce qu'il considère comme grave dans son comportement.
Michel Quesnel, Marc ne s'attarde pas du tout sur l'origine familiale, on l'a dit, de Jean.
Pas du tout.
Contrairement à Luc qui va
raconter... On ne dit pas qu'il est cousin de Jésus, il n'y a rien de tout ça.
Par contre, il donne des détails sur son look.
Ah oui.
Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Qu'est-ce que l'on peut dire de... Voilà, de cette présentation vestimentaire.
C'est un peu austère comme type de vie. Je crois, si vous voulez, que là, il y a un véritable rapprochement avec la personne d'Élie.
Le prophète Élie.
Le prophète Élie, voilà, le prophète Élie qui a vécu bien avant notre ère, qui était d'ailleurs un prophète du nord d'Israël, hein, c'est de là, autour de Samarie. Et il a été un prophète persécuté. D'ailleurs, Jean sera persécuté lui aussi, puisqu'il mourra tragiquement. Et le costume de Jean et sa nourriture rappellent la sobriété vestimentaire et alimentaire qu'Élie pratiquait lui-même. Oui,
oui, quand il est décrit dans le livre des rois, hein, le prophète Élie,
absolument.
Il a le même...
Avec le même attirail vestimentaire, si j'ose dire.
Les sauterelles et le miel symbolisent une vie sobre, frugale,
voilà.
Ascétique.
Tout à fait. Tout à fait. C'est la nourriture, si vous voulez, qu'on ne cultive pas, qu'on les sauterelles, on les ramasse. C'est-à-dire, quelquefois, elles arrivent en un peu trop grand nombre. Et puis, le miel, bon, on le récolte. C'est pas les hommes qui le fabriquent, ce sont les abeilles.
Mais le miel, c'est un élément important.
Alors,
dans la Bible.
C'est un élément, si vous voulez, la terre où ruisselle le lait et le miel, c'est une terre d'abondance. Et effectivement, la présence de miel est aussi un symbole d'une terre bénie, d'une certaine façon.
Marc nous dit que l'activité principale de Jean, c'est donc de baptiser. Les personnes viennent se plonger et ressortir en confessant leur péché. Et puis Jean proclame « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Jean-Baptiste, qui devait admirer, qui avait voilà, des disciples, là fait acte d'humilité.
Dans la tradition des campagnes juives, lorsque vous entriez chez quelqu'un que vous étiez reçu, en général, enfin quand vous veniez de loin surtout, vous aviez les sandales aux pieds. Vous arriviez, vous vous asseyiez, et une servante ou une enfant de la maison, en général une femme d'ailleurs, venait vous défaire la courroie de vos sandales, parce qu'à l'intérieur de la maison il y avait des tapis. Et on était plus à l'aise en étant pieds nus, d'autant plus que les sandales avaient traîné dans la boue de la rue, etc. Donc c'était un serviteur qui s'abaissait au pied de la personne qui était invitée pour défaire ses courroies. Et Jean déclare qu'il n'est même pas digne d'être ce serviteur-là. Donc il est moins qu'un esclave par rapport à Jésus. Et donc il établit la distance maximum qui peut exister entre lui-même dans sa modestie et son humilité et la grandeur de celui qui l'annonce.
Comment comprendre l'expression « plus fort que moi » ? Plus fort en quoi, finalement ?
Je pense que c'est la proximité de Dieu. Tu es Seigneur, ma force, on voit ça dans les psaumes. Et donc, celui qui est fort de la force de Dieu, celui, effectivement, qui est en grande proximité avec celui que nous appelons le Père. Alors que Jean, au contraire, a l'impression qu'il est vraiment le dernier des derniers par rapport à Jésus.
Lisons avec vous, Michel Quesnel, la finale de l'évangile de ce dimanche. « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors, quelle est la différence entre ces deux baptêmes ? Vous avez déjà expliqué le baptême d'eau, le baptême dans l'Esprit. Alors, ça fait référence, bien sûr, à une pratique des premiers chrétiens.
Oui, alors c'est un peu compliqué, ça, si vous voulez, parce qu'on pense spontanément à la Pentecôte. Mais la Pentecôte, ce n'est pas présent dans l'évangile de Marc. Hein, c'est dans les Actes des Apôtres. En fait, la mention de l'Esprit Saint qui parlera dans la bouche des hommes, vous trouvez ça au chapitre 13 de saint Marc, lorsque dans les discours que Jésus adresse pour annoncer les persécutions que les disciples subiront, vous pouvez lire ceci. « Lorsqu'on vous conduira pour vous livrer, ne vous souciez pas à l'avance de ce que vous allez dire, mais dites ce que vous sera donné à cette heure-là. En effet, ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et celui qui donnera la force aux disciples, y compris quand il sera dans la difficulté des persécutions, pour faire face à ses adversaires. » Et je pense effectivement l'Esprit Saint, bon, qui se présente, y compris dans les Actes des Apôtres, comme une force, un vent, un feu, etc. Donc il y a un symbole de force. Mais telle qu'elle est représentée dans saint Marc, c'est finalement la force que Dieu donne à l'intérieur de la personne, et en particulier lorsqu'elle a besoin de résister à l'adversité.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Michel Canel, nous avons pris le temps de détailler cet évangile consacré à Jean-Baptiste. C'est quoi la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui quand nous écoutons cette parole ?
Dieu aime sa création et en particulier les personnes humaines qui sont le nec plus ultra de sa création. Tous les humains sont fils de Dieu. Alors je n'aime pas du tout l'expression à propos du baptême. Le baptême va vous faire devenir enfant de Dieu.
Alors pourquoi ?
Parce qu'on est enfant de Dieu avant. Le baptême est un sacrement, un rite qui actualise le fait qu'on est enfant de Dieu. Mais ça ne fait pas de nous des enfants de Dieu.
Oui, mais alors pourquoi recevoir le baptême ? On peut vous dire, dans ces cas-là, je n'ai pas besoin d'aller à l'église recevoir
le
baptême.
Attendez, on le reçoit parce qu'on est chrétien. Mais il y a plein de gens, heureusement, qui sont fils de Dieu, qui n'ont jamais été baptisés. Il y a plein de gens qui sont fils de Dieu et qui sont pardonnés alors qu'ils ne se sont jamais confessés. Donc finalement, si vous voulez, je crois que si on lit notre devenir au rite que nous avons reçu, ça devient insupportable. Quand on pensait que les enfants non baptisés allaient en enfer ou dans les limbes, c'est odieux. C'est odieux, comme si Dieu était lié par les gestes que nous faisons. Dieu n'est pas lié par les gestes de l'Église, heureusement. Alors que l'on signifie que nous sommes enfants de Dieu par un rite, qui est en même temps un rite de pardon des péchés, qui est le baptême, ça me paraît très bien. Mais on l'actualise, on le signifie. On ne fait pas devenir la personne enfant de Dieu ou fils de Dieu ce qu'elle ne serait pas avant.
Donc la bonne nouvelle dont parle Marc dès le début, c'est que tout homme, quel qu'il soit, est fils.
Absolument.
Et aimé d'un Dieu qui l'a à découvrir, qu'il ne découvrira peut-être pas tout de suite, mais qu'après la vie apporte des rencontres, des événements.
Alors je crois que toute personne, effectivement, peut avoir, si vous voulez, qu'elle ait été évangélisée ou pas, ou qu'elle ait été élevée dans la religion chrétienne ou pas, toute personne peut, par ses capacités spirituelles, avoir une certaine approche de la divinité. Vous avez, dans saint Paul, l'homme n'est pas divisé en un corps et une âme, il est divisé en un corps, une âme et un esprit. Et l'esprit, c'est justement la partie de la personne humaine qui se sent appelée à la transcendance et qui se sent appelée à avoir avec les autres personnes une relation d'amour et pas simplement une relation de rivalité. Spontanément, l'autre est un ennemi d'une certaine façon parce qu'il est autre que moi et il me gêne, de temps en temps il empiète sur mon espace, etc. Et j'ai en moi, heureusement, et c'est ça vraiment l'esprit qui est en moi, j'ai en moi quelque chose qui me pousse à penser que l'autre est au moins aussi bien que moi et à avoir vis-à-vis de lui des paroles, des gestes qui lui font du bien. Ça, je crois que toute personne humaine est possédée de cet esprit-là, oui.
Merci à vous, Michel Canel, de nous avoir accompagnés pour commenter cet évangile que l'on retrouve chez Marc au chapitre 1, versets 1 à 8. Merci à Pascal Gauthier à la réalisation technique.